Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotion avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous et bienvenue dans une semaine formidable pour décrypter l'actualité sportive de cette semaine. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Eric Figuère et Clément Muller. Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bonsoir.
Au sommaire de cette émission du football, avec un retour sur la semaine de Ligue des Champions et un point sur la Ligue 1, et de la MotoGP avec la présentation de la saison 2025. Après la pub, nous débattrons de la suspension du numéro 1 mondial de tennis Jannik Sinner, et enfin nous terminerons comme d'habitude par les coups de cœur de nos invités. On va donc commencer par le football, et pour le plus grand plaisir de Lionel Sabot, on ne parlera pas de l'AS Saint-Etienne. On va commencer par la Ligue des Champions, et cette semaine, donc, c'était les matchs allés de barrage de cette Ligue des Champions, Eric Figuère, avec trois clubs français engagés, alors un duel franco-français, et puis l'AS Monaco qui était opposé à Benfica. On va commencer par le Brest-PSG, puisque ça avait lieu en Bretagne, au Roudourou, à Guingamp, et une belle victoire du PSG avec encore un Dembélé qui continue de marcher sur l'eau.
Alors avant de parler de la Champions League, on peut ne pas parler de Saint-Etienne, mais comme on parlera de Marseille, forcément on en parlera un petit peu quand même, et tant pis pour
bon,
pour
je pense qu'il va se passer Stéphanois. Il va se passer des choses sur le trottoir, voilà. Après l'émission.
Donc on l'avait un petit peu prédit, et on l'avait même largement prédit, que cette opposition entre le PSG et Brest serait à l'avantage de Paris. Même si la glorieuse incertitude du sport, comme on a plaisir à la rappeler, peut nous apporter évidemment son lot de surprises. Bon, Paris était dominateur, Paris est évidemment meilleur, plus fort dans tous les secteurs du jeu. Ça ne veut pas dire pour ça que Brest a fait un mauvais match. D'ailleurs, il a fait ce qu'il... les joueurs de Brest ont fait ce qu'ils avaient à faire. Bon, malheureusement, aujourd'hui, Paris est quasiment injouable. Alors, on va voir effectivement au prochain tour ce que ça va donner contre une équipe là, pour le coup, beaucoup plus prestigieuse et beaucoup mieux armée. Mais restons pour l'instant sur cette opposition avec Brest. Voilà, ils sont trop forts. Ils nous le montrent, même si on reviendra au championnat de France, même s'ils montrent que de temps en temps, ils relâchent un peu la pression et ils se contentent de gagner un petit peu à minima leur rencontre hexagonale. Mais voilà, il n'y a pas de discussion. Dembélé continue à bien jouer, continue à bien se placer, continue à faire le job qu'il semble avoir compris. Il n'y a pas de raison qu'il s'arrête maintenant, je pense qu'il nous a montré beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Il est très bien entouré, les joueurs maintenant savent qu'il sera à l'endroit où il doit se trouver en tant que, maintenant on peut le dire, hein, en tant que numéro 9. Même s'il dézone un petit peu, mais...
Avec une arme supplémentaire qui s'appelle Kvaratskhelia.
Avec une arme, oui, qu'on connaît. Alors, bon, les spécialistes, bien sûr, le connaissaient, hein, un joueur qui évoluait dans le championnat italien, mais c'était pas non plus quand même un grand nom, lié sans doute à son pays d'origine, hein, la Géorgie, forcément.
Exactement.
Mais c'est un très beau joueur, et forcément, il va apporter... c'est encore trop tôt pour le dire, mais on est certain qu'il va apporter un plus. Il va se fondre, il s'est déjà fondu dans le collectif, il va se fondre encore plus dans les toutes prochaines semaines, et je pense que ce sera une arme supplémentaire, ce sera pas l'arme décisive, mais ce sera une arme supplémentaire, justement pour l'étape suivante.
Bon, si je comprends bien vos propos, Eric Figuère, pas de surprise sur le match retour, le PSG va s'imposer et se qualifier pour ses huitièmes de finale, du coup,
J'aimerais que Brest réussisse un exploit, pas contre Paris, hein, bien sûr, mais parce que Brest le mérite, ça fait deux saisons qu'ils jouent un très très beau football. Ça risque quand même, voilà, je peux m'avancer un petit peu, et tant pis si je me fais ramasser, parce que c'est toujours le jeu des pronostics, forcément, quand il y a une surprise et qu'on a tort, mais c'est pas grave, Brest est largement dessous, et Paris ne se fera pas remonter.
Allez, on va passer du coup à Monaco, battu à domicile par Benfica 1-0, ça c'est un peu la déception de cette journée de match aller des barrages. On attendait forcément mieux de Monaco.
Le problème, c'est que Monaco, on le dit déjà depuis plusieurs semaines, joue trop souvent en courant alternatif. Un coup bien, un coup moins bien. On sait qu'ils ont aussi des joueurs importants, par exemple comme Golovin, qui joue là aussi une fois bien et une fois disparaît complètement du jeu. Donc c'est très embêtant. Gros potentiel, bien sûr, de Monaco. On le sait, ils ont un très bon coach aussi, ça y fait beaucoup. Mais ça fait deux fois qu'ils perdent cette année contre Benfica. Une très solide équipe de Benfica, une équipe très dangereuse.
Il ne faut pas sous-estimer, absolument.
Ah, oui. Mais d'ailleurs, on a toujours trop souvent tendance à sous-estimer les clubs portugais. Hein, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais c'est comme ça. Et non, c'est une très très grosse équipe, Benfica, qui pourrait d'ailleurs en embêter plus d'une, si effectivement elle conserve son niveau de jeu et qu'elle bat Monaco, ce qui semble Voilà, j'ai peur que l'exploit monégasque ne soit pas à l'arrivée. Je l'espère, bien sûr.
C'est toujours difficile d'aller s'imposer au stade de la Luz à Benfica.
On sait que c'est un stade qui a, en général, en plus, pas forcément bien réussi au club français. Voilà, mais encore plus cette année. Alors, à eux de montrer qu'ils ont de la valeur et qu'ils ont envie de continuer. Hein, c'est tout. Ils sont 11 contre 11. Ils n'ont perdu, certes, à domicile, mais que 1-0. Voilà, donc 1-0 au retour et on part en prolongation, donc c'est pas du tout impossible, et mieux évidemment, puisqu'un 2-1 au retour leur permettrait. Non, ça ferait 2-2, donc il n'y a plus les matchs, il n'y a plus les points de marqués à l'extérieur.
Exactement.
C'est vrai. Donc l'exploit est possible, mais je ne mettrai pas beaucoup de pièces là-dessus.
Ok, on a une finale avant l'heure qui est Manchester City contre le Real Madrid, où le Real a été encore une fois chirurgical, loin d'être dominateur, loin d'être transcendant, et pourtant à la fin, il gagne 3-2.
Ils sont chirurgicaux, ça c'est sûr. On a trop l'habitude de les avoir vus reproduire les mêmes exploits, année après année. Là, ils se sont quand même appuyés sur une faiblesse, et on en avait déjà parlé la semaine d'avant, les semaines précédentes de Manchester City, clairement aujourd'hui en très grande difficulté, même si pour le coup, alors je crois que Marmouche, le nouvel entrant qui vient de marquer un triplé ce week-end en championnat d'Angleterre, je crois qu'il est qualifié pour...
il doit l'être désormais,
voilà, il n'était pas qualifié pour les deux derniers matchs de la saison régulière, de poule, voilà, de la saison régulière, mais il est qualifié pour ce tour-là. Est-ce que le week-end qui vient de se passer avec un très beau match, beaucoup de buts, beaucoup de bonnes choses, est-ce que ça va leur permettre? Je pense que si quelqu'un peut réaliser l'exploit de gagner là-bas, c'est Manchester City avec les armes offensives qu'ils ont. Maintenant,
ils ont quand même une défense qui tient.
Voilà, maintenant ils sont tellement faibles collectivement en défense. Pas que les défenseurs, parce que c'est toujours on tape sur
un milieu de terrain
toujours
aussi,
sur les défenseurs, mais voilà, les milieux de terrain aujourd'hui sont ont trop baissé de régime pour pouvoir véritablement aider l'équipe, et elle n'est pas assez puissante effectivement pour empêcher quelconque équipe de ce niveau-là de pouvoir venir dans les 18 mètres et créer le danger. Aujourd'hui, on a vu en plus que Kylian Mbappé est quand même revenu au top.
Absolument.
Donc il est aujourd'hui l'arme numéro 1, avec bien sûr les joueurs qui l'entourent. Vinicius a bien récupéré de sa petite blessure et de sa déception du Ballon d'Or. Je pense qu'il a envie de montrer. En plus, il a un très très beau contrat qui l'attend en Arabie Saoudite. Hein, que les médias commencent à en parler sérieusement, autour du milliard. Enfin, c'est pas autour du milliard, c'est un milliard sur 5 ans. Donc, je pense qu'il a, avec son ego, encore plus envie de se montrer. Donc là, si d'aventure Manchester City vient taper le Real à Bernabeu, je crois que ce sera un des très très grands exploits de ces dernières années.
Bon, on suivra ça cette semaine. Dans les autres rencontres de ces matchs allés, on a eu donc le club de Bruges, dont on avait parlé les semaines précédentes, qui a battu l'Atalanta Bergame de buts à 1 à domicile. On a le Feyenoord de Rotterdam qui a battu l'AC Milan 1-0 aussi, donc le match retour à San Siro risque d'être là aussi très intéressant. On a le Bayern qui est allé s'imposer à Celtic Park en Écosse 2-1, donc pas de gros écarts dans chacun de ces matchs, et la Juve qui a battu le PSV Eindhoven 2-1 aussi, donc tout est possible sur ces 4 matchs retour. Et puis dans le dernier match, donc, on a le Sporting qui s'est incliné à domicile contre Dortmund 3-0, où là par contre la messe semble un peu dite, puisque d'aller gagner 3-0 au Signal Iduna Park à Dortmund, ça va quand même être difficile.
À part les deux équipes allemandes, le Bayern et Dortmund, effectivement, même si le Bayern n'a qu'une courte avance, mais qui semble quand même être suffisamment solide pour passer ce tour. Dortmund est, voilà, on peut le dire, quasiment qualifié, même si c'est encore une fois toujours difficile de s'avancer. Mais pour toutes les autres équipes, toutes les autres rencontres, le niveau est homogène, même s'il y a eu en plus des petits écarts, mais le niveau est très homogène. Ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Aucune des équipes, même avec des passés très importants, glorieux et prestigieux, n'est à l'abri. Donc on va avoir des matchs très engagés, je pense, du début à la fin.
On va suivre ça cette semaine avec un tirage au sort donc de cette dernière phase de la Ligue des Champions, puisque le tirage va être fait jusqu'au bout sur l'ensemble du tableau. Vendredi soir pour nous ici en Calédonie. On va passer à la Ligue 1 et donc on va commencer par les scores fleuves de ce week-end avec l'OM qui a donc battu une équipe qui porte un maillot vert 5-1 et Monaco qui a dynamité le FC Nantes 7-1. Deux très gros scores. On commence par l'OM.
Oui,
votre
OM. On commence par le meilleur, bien sûr. Oui, on peut commencer par l'OM, malheureusement au détriment de Saint-Etienne, qu'on n'a forcément pas envie de voir descendre, parce que Saint-Etienne est l'équipe de cœur, je crois, de tous les Français. Tout le monde se retrouve derrière ce grand club.
Les Français d'un certain âge ont tous un souvenir avec Saint-Etienne.
Les Français d'un certain âge, un petit peu plus que les jeunes, on est bien d'accord. Donc c'est là qu'on s'aperçoit qu'on vieillit, mais c'est vrai, il faut le reconnaître. On n'a pas envie de les voir descendre malgré tout, parce que tous ces clubs historiques de la première division française, de la Ligue 1 aujourd'hui, sont importants pour l'attrait, sont importants pour les régions. Alors évidemment que les autres clubs qui vont monter sont importants aussi, bien évidemment, mais on a envie de voir ces affiches-là, même si pour l'instant, certains clubs comme Saint-Etienne sont en danger. Parce que je crois que l'année va être très difficile.
Ça va être très dur jusqu'au bout, a priori.
Voilà,
oui.
Saint-Etienne, Montpellier, Le Havre, c'est tout ça, ce sont des clubs historiques et qui sont en grand danger, même si pour l'instant les écarts ne sont pas du tout creusés.
Non.
Donc tout est encore possible.
Avec la victoire à 3 points, c'est vrai que ça peut aller assez vite.
Ce qui est quand même très surprenant, c'est de voir ce nombre de buts que ces équipes-là encaissent. Nantes n'est pas coutumier du fait, par exemple, contre Monaco. C'est assez bizarre de voir des équipes qui en prennent autant et plus que le nombre de buts, parce que après il faut regarder le contenu du match, il faut regarder quand est-ce que les buts ont été marqués, etc. Mais quand il y a des oppositions qui sont aussi faibles, c'est pas bon signe. Quand on en prend 3, même en exagérant 3 ou 4 dans les 20 dernières minutes, parce qu'à un moment donné l'équipe a tenu et elle lâche, c'est une chose. Là, il y a des contenus qui sont très faibles.
C'est plus là-dessus qu'il faut s'inquiéter. Parce que comme le disait Giroud, il vaut mieux perdre cette fois 7-0 que cette fois 1-0.
C'est certain, mais ça fait déjà quand même quelques mauvais scores. Pas aussi importants, heureusement. Mais quand on est en queue de classement, c'est qu'il y a forcément un problème. Ces problèmes-là peuvent se résoudre. Il reste encore suffisamment de matchs pour ça. Et évidemment que tous ces clubs concernés vont faire le nécessaire. Mais voilà, il y aura quand même de descentes.
On a aussi Brest en ouverture de cette journée de championnat qui s'est
qui ne s'est pas incliné mais qui a
vraiment lutté pour aller arracher le match nul face à Auxerre de partout, un match très spectaculaire pour le coup. Je pense que les Brestois avaient aussi envie de montrer un autre visage par rapport à leur défaite au PSG dans la semaine. Et puis ils retrouvent des couleurs, ils avaient du mal à enchaîner le match de Ligue des Champions et le match de championnat derrière. Là, on sent qu'ils commencent un peu mieux à maîtriser cet enchaînement.
Ouais, ils ont un peu plus de rythme, mais on savait que ce serait compliqué. Forcément, tout le monde le sait qu'une année comme ça, qui suit une année exceptionnelle comme celle que Brest a vécue l'année dernière, avec une deuxième place au classement général, une qualification pour la Coupe d'Europe, et puis cette année, une saison exceptionnelle en Champions League, il faut le dire, même si elle va s'arrêter là, malheureusement pour eux. Mais là, ils arrivent à enchaîner. Pourquoi ? Parce que le fond de jeu est là. Alors, ils ont retrouvé un peu de force vive, ils ont retrouvé des joueurs, c'est certain. Mais le club reste bien structuré, il continue à avoir un très bon entraîneur. Il n'y avait pas de raison. Alors, ben oui, de temps en temps, ça pêche un petit peu. C'est normal, ils n'ont pas une profondeur de banc, ils n'ont pas un niveau encore qui leur permet d'être plus présents. Mais je trouve que ce qu'ils font quand même est remarquable.
On va terminer
Et n'oublions pas de parler de Nice. Alors, je n'ai pas spécialement d'affinité avec le club de Nice, mais saluons le travail de son entraîneur, qui était à Lens l'année dernière.
Exactement.
Son club et lui et Franck Haise, effectivement, font peu de bruit. Alors, toujours évidemment, avec mais comme toutes les équipes qui sont en dessous du Paris Saint-Germain, parce que toutes sont au même niveau pour ça, jouent en dents de scie. Nice fait comme tout le monde, joue en dents de scie aussi, mais ben voilà, ils sont troisième du classement, je crois.
Exactement.
Derrière l'OM, points, à égalité de points avec Monaco. Mais voilà, K1, tout doucement, sans faire de bruit, ils sont placés et je pense que Franck Hess doit y être pour beaucoup.
Mais je pense que Lens ne dira pas le contraire, puisque Lens a quand même beaucoup de mal depuis quelques semaines. Lens, alors, il ne faisait pas bon sur les 5 derniers matchs de cette journée de championnat ce matin recevoir, puisque toutes les équipes qui recevaient ont perdu.
Ouais,
Montpellier
matin.
S'est incliné face à Lyon 4-1. Lens donc a perdu contre Strasbourg 2-0. Le Havre s'est incliné face à Nice 3-1. Reims s'est incliné à domicile contre Angers 1-0. Et ce matin, dans le dernier match de ce championnat, Lille est allé gagner à Rennes 2-0 avec un but de Ben Taleb.
Justement, si on peut parler de lui, justement, ça me permettra de tricher un peu et d'avoir finalement deux coups de cœur. J'en place un petit peu avant.
Voilà.
Nabil Ben Taleb, effectivement, ce joueur de Lille de 28 ans qui a eu à peu près dans cet âge-là, qui a eu un infarctus, un problème cardiaque il y a 8 mois. et qui s'est fait poser un défibrillateur, sous la peau, qui a été autorisé à rejouer. Ça, c'est très bien. Au-delà de son cas personnel, de pouvoir rejouer au football en professionnel, c'est formidable. Mais que les instances dirigeantes soient capables, puisque ce n'est pas le cas en Italie, par exemple, soient capables de l'autoriser à rejouer, que son club soit capable, effectivement, de lui faire confiance, de le reprendre, que son coach, Bruno Genesio, soit capable de le prendre dans le groupe et de le faire rentrer. Et voilà, on peut parler de coup de cœur, bah forcément, ça a tout son sens. Bah, il rentre à la 76e, il marque à la 80e, ça débloque le match, il mène 1-0 et il gagne finalement 2-0.
C'est ça.
Donc ça, c'est une très très belle histoire. Il est, paraît-il, je ne le connaissais pas très bien avant, mais il est, paraît-il, adoré à Lille et dans le Nord. C'est un gars absolument formidable. Alors, ce serait bien pour tout autre joueur, mais c'est peut-être encore mieux pour lui. Et quand on sait ce que c'est que d'avoir un problème cardiaque et réussir à se relever de ça, et de pouvoir reprendre, je suis un petit peu ému, le sport. Et le sport à ce niveau-là, je suis vraiment admiratif.
C'est la belle histoire de cette 22e journée. Donc, au classement, on a Paris qui est toujours en tête avec 10 points d'avance sur Marseille, 16 sur Nice et Monaco, donc qui sont 3e avec 40 points. Lille est 5e avec 38 points. Et en queue de classement, donc à 14e place, on a Reims avec 22 points. On a Nantes avec 21 points à la 15e place. Ensuite, Saint-Etienne, 18 points. Le Havre, 17 points. Et Montpellier, 15 points.
Toutes qui ces commencent équipes-là sont en grand
à être
danger.
Un petit peu décrochées. On va terminer cette page football et on va donc passer à la MotoGP avec vous, Clément Muller. Une saison de MotoGP qui reprendra ses droits le 2 mars en Thaïlande. 22 Grands Prix au programme de cette saison qui se terminera le 16 novembre. On rappelle que c'est Jorge Martin qui est champion du monde en titre. Alors, quels sont les changements notables en termes d'écurie, en termes de pilotes? On va parler de nos pilotes français aussi. Est-ce qu'il y a des nouvelles règles? Bref, on va faire un point sur toute cette saison à venir de MotoGP.
Eh bien, Olivier, écoute, il y a effectivement pas mal de choses à dire. Si ce n'est pour commencer, le champion du monde en titre, Martin, qui bascule chez Aprilia, et qu'on n'a malheureusement pas assez vu sur les séances d'essai, car il s'est blessé en Malaisie. Donc on n'a pas pu voir vraiment ce qu'il donnait sur la moto. Donc ça va être le premier gros point d'interrogation de la saison. C'est est-ce que le champion du monde en titre 2024 sera en mesure de défendre son titre en 2025 face à une armée de
Ducati
redoutable. Ça c'est le premier point d'interrogation. Tout le monde dit que ça sera impossible. On a vu des Aprilia quand même progresser et relativement performantes, notamment avec Bezzecchi sur les dernières sessions de test ou qui fait troisième derrière de Ducati, donc une Aprilia avec Bezzecchi troisième, donc je me dis qu'une Aprilia avec Martin,
sachant qu'on sait que le point fort de Martin, c'est quand même la régularité et le fait de jouer placé et pas forcément gagnant. C'est comme ça qu'il est devenu champion du monde.
En fait, on cherche pas forcément à voir un Martin gagner, mais on cherche à voir un Martin régulièrement dans les 5 premières places. Et là, on voit clairement que Aprilia a servi une moto à ses pilotes qui est capable de faire des top 5. Donc je pense que la défense du titre va se jouer sur la régularité, pas forcément sur les victoires.
Et ce qui peut lui servir, excuse-moi, c'est que les points vont être distribués un petit peu plus dans le haut du classement, puisque Marc Marquez va maintenant jouer le titre très clairement. Donc le fait que les points soient un peu dilués entre lui et Pecco Bagnaia, ça risque de lui permettre peut-être de lâcher quelques points au départ et de pouvoir malgré tout être présent.
Oui, c'est ça, exactement. Et notre analyse qui est assez intéressante, parce qu'on m'a souvent dit oh, le petit Marquez, le petit frère là, il est énervé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Ducati officiel a mis du temps à se décider entre son moteur 2024, de conserver le moteur 2024 pour 2025 ou de continuer la saison, enfin de commencer la saison 2025 avec son
évolution.
Nouveau moteur. Les pilotes à l'unanimité ont dit ce moteur est très bien mais il a aussi trop de points faibles et on n'aura pas le temps avant le début de la saison de les résoudre. Donc il faut savoir que les pilotes Ducati officiels conservent le moteur de 2024. Donc, alors que Alex Marquez, lui...
aura un 25 ?
Non, il a un 24, mais l'année dernière, il n'avait pas un 24.
Ah, donc ça peut... là aussi...
Donc les deux frères vont jouer avec le même moteur. Ah. avec la même
quel,
marque.
Quel niveau a-t-il véritablement ce frère, ce petit frère ?
Et ben, on voit que quand Marc, le grand frère, fait les dernières séances avec une 2024, il repasse devant le petit frère, mais on est quand même sur les essais de Thaïlande avec Marquez grand frère premier et Marquez petit frère deuxième. Donc on a deux frères Marquez aux deux premières places avec deux Ducati. Je pense que ce qui va faire la différence, ça va être l'écurie. L'écurie officielle qui a beaucoup plus de ressources techniques, humaines, matérielles pour encadrer ses pilotes.
Ouais, mais on a vu que Martin, ça l'avait pas trop dérangé.
Ouais, mais Martin, c'est, ça reste.
Oui, Martin, c'est Martin.
Martin, c'est, ça, il y a toujours eu un petit conflit parce qu'il a toujours été demandeur de cette place face à Pecco, face à Bassanini à l'époque. Et il l'a jamais eu, donc il était toujours un peu en porte-à-faux avec Ducati.
Justement, parlons de Pecco Bagnaia, double champion du monde avant Martin. Où en est-il, notre pilote italien?
Moi, je dirais qu'il va falloir compter sur lui aussi. Ça va être plus difficile parce que là, on regroupe pas mal de pilotes Ducati avec les mêmes machines. Contrairement aux années précédentes où les pilotes officiels avaient la dernière évolution des moteurs et les écuries... privé avait...
L'écart était important.
Il y avait un écart, il y avait un vrai écart. Là, on regroupe pas mal de pilotes avec les mêmes machines, avec les mêmes moteurs. Donc, ça va se resserrer. Après, sur les essais, Bagnaia, troisième à Barcelone, deuxième en Malaisie, cinquième en Thaïlande.
Il est dans le coup.
Il est dans le coup.
Il se montre juste ce qu'il faut, j'ai l'impression.
Il n'y a pas une stratégie des pilotes pour ne pas dévoiler toutes leurs cartes aussi dès maintenant ?
Non, non, là, les pilotes, ils ont besoin de récupérer des informations un maximum, de faire encore progresser les motos. Donc, on les voit, ils font des tours.
Okay. On est vraiment dans la collecte de data.
Et le travail n'est pas fini encore. On entendait une interview de Fabio.
C'est là où Martin, justement, va avoir des problèmes, parce que lui, il devrait rentrer que pour la première course.
C'est là où Martin va être obligé de compter sur les datas récupérées par
son coéquipier.
Et bon, ça reste toujours...
On sait qu'il a un pilotage qui n'est pas forcément le même...
Exactement, et ça reste un sport individuel, même si il y a des coéquipiers, des équipes, des écuries, ça reste un sport individuel, et à la fin, il n'y a qu'un champion du monde. Donc, il va récupérer des datas qui ne sont pas les siennes, donc forcément, il va être en déficit dès le départ.
Messieurs, leur tourne, on va devoir parler de nos pilotes français.
Avec plaisir. Le Fabio. Ouais, on continue sur la lancée Fabio, du coup. Ben Fabio va falloir...
Quartararo. Pour
Fabio les... Quartararo, oui, s'il y a plusieurs Fabio. Quartararo, ben, il va falloir compter un peu sur lui, à jouer entre la 5e et la 10e place, beaucoup mieux que les années précédentes. On n'est pas encore au niveau du podium.
Toujours chez Yamaha, on le rappelle.
Toujours chez Yamaha, choix stratégique pour Fabio, ça a l'air de progresser, ça a l'air de payer, on verra. Après, pour notre autre Français, Johan Zarco, c'est plus difficile. On a vu la Honda officielle progresser avec Johan Mir, mais c'est en demi-teinte pour Johan Zarco qui a du mal encore avec la moto et qui, voilà, péniblement 16e en Thaïlande. Il avait fait une bonne session en Malaisie, mais après, il est recoulé sous des grosses difficultés. Il a une moto qui est très rapide pour un tour. Son débrief, c'est moto très rapide pour un tour, mais pas assez pour en faire 25.
Est-ce qu'il y a de nouveaux pilotes sur le plateau cette année ?
Il y a trois nouveaux qui montent de la moto 2. Il y a Chantra, Ogura, et il m'en manque un. Aldeguer.
Et Acosta, qu'est-ce qu'il va faire
Acosta, il
même
est...
Si c'est plus sa première saison.
C'est plus sa première saison.
Mais qu'est-ce qu'il va donner cette année?
C'est le seul pilote KTM qui arrive à se sortir un peu du
Mais on a vu quand même qu'après un bon début de championnat l'année dernière, et quelques très beaux podiums, très belles courses, on a vu que ça a été beaucoup plus compliqué par la suite.
Plus compliqué. Il est jeune, il essayait de gagner des courses et d'aller chercher les gros points. Il avait moins cette maturité-là
La
gestion de course, exactement, et d'aller chercher des points coûte que coûte et de pas se mettre par terre ou de pas. C'est un pilote qui voulait gagner, prendre des gros points et au final, il faisait des erreurs et il finissait avec très peu de points, voire pas de points. Là, il a une année de plus. On l'entend dans ses discours, il est beaucoup plus mature. Je pense que c'est quelqu'un qu'il va falloir surveiller. Alors, peut-être pas pour le titre, mais...
Probablement pour une dernière année KTM, d'ailleurs. Probablement avant peut-être de changer, même s'il n'y a rien qui filtre. Mais KTM, en plus, est en difficulté économique.
Ouais, j'ai envie que ça marche pour eux cette année, pour leur redonner un peu de...
Oui, oui, il faut qu'il y ait un maximum de
constructeurs. Un plateau plus fourni.
Est-ce qu'il y aura des nouvelles règles, Clément ?
Bonne question. Je t'avoue que je n'ai pas révisé à ce point-là.
Donc on découvre,
pas entendu parler.
On découvrira. Il y a toujours un petit lot de nouvelles règles. Alors, pas forcément majeures, mais il y a toujours des petites évolutions. On va terminer donc en vous demandant vos favoris pour le titre, même si on a déjà en partie répondu à la question.
Moi, j'aime beaucoup de pilotes. Après, j'aime bien Bagnaia, j'aime bien Martine. Ouais, j'ai envie de dire Bagnaia, j'aime bien Bagnaia.
Le retour de Bagnaia.
Le retour de Bagnaia, voilà.
on va terminer cette page MotoGP sur ce pronostic et on se retrouve juste après une page de pub.
RRB, la pub. Tous les lundis, chez Mobile, doublez vos points Conso Plus. Et ce n'est pas tout, chaque lundi, Mobile offre à un gagnant ses achats en caisse. Ne manquez pas cette chance. Rendez-vous le lundi dans les stations mobiles participantes. Mobile Energy lives
here. Boostez vos compétences professionnelles avec le diplôme d'université marketing opérationnel et stratégique de l'UNC. Une formation complète pour maîtriser tous les aspects du marketing, des bases solides aux stratégies avancées, sans oublier le web marketing. Une formation courte sur 3 mois, de février à avril 2025, avec 4 modules de 3 à 4 jours pour un apprentissage flexible. Joignez l'UNC à la rentrée du 25 février. Le diplôme d'université marketing opérationnel et stratégique de l'UNC, votre avenir commence ici. Infos pratiques sur unc.nc.
RRB, tout de suite la suite d'une semaine formidable avec Olivier Ledain et ses invités.
Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Retour dans une semaine formidable et on va donc continuer cette émission avec le débat de cette semaine. Hier ou avant-hier, le numéro 1 mondial de tennis, Jannik Sinner, a été condamné à 3 mois de suspension pour dopage. Cette sanction a été négociée avec l'Agence mondiale antidopage alors que le tribunal arbitral du sport devait se prononcer le 17 avril prochain. Cette décision suscite beaucoup de réactions dans le milieu du tennis où la plupart du temps, elle choque. On a vu beaucoup de réactions de joueurs qui étaient vraiment choqués, qui croyaient plus du tout dans les valeurs du sport. Pour rappeler quels étaient les faits, Jannik Sinner a été contrôlé positif à 2 reprises en mars 2024 au Clostebol, une substance interdite qui se trouvait dans une crème de massage d'un de ses kinés. Sinner a été blanchi en août 2024 par le tribunal indépendant de l'ITIA. Pardon. Le numéro 1 mondial justifiait ses contrôles positifs par une contamination involontaire. Et l'affaire avait été relancée après que l'Agence mondiale antidopage avait fait appel de cette décision en septembre. L'organisation a demandé une suspension d'1 à 2 ans pour l'Italien. Et donc, ce qui choque aujourd'hui, c'est de voir que Jannik Sinner a traité directement avec l'Agence mondiale antidopage sans attendre la décision du tribunal arbitral du sport. Une suspension de 3 mois qui finalement n'a presque pas de conséquences puisqu'il va louper 2 Masters 1000 de Cincinnati et de Miami et que derrière, il pourra jouer le premier tour du Grand Chelem à venir, c'est-à-dire Roland-Garros. Eric Figuère, qu'est-ce que ça vous inspire
C'est un sujet très délicat. Alors la suspension, il y a deux problèmes. Il y a le problème lié à la suspension en elle-même et il y a le problème du dopage ou de cette forme de dopage-là, évidemment que je vais peut-être pas me faire que des amis, mais si on part du simple principe qu'il a été contrôlé positif à un produit interdit, il n'y a pas à discuter, bien évidemment, il doit y avoir une sanction, et ensuite on va discuter donc de la sanction. Maintenant, ça pose malgré tout un problème, alors on pourra me dire c'est ou blanc ou noir, et c'est pas entre les deux. Mais c'est peut-être aussi justement parce que c'est entre les deux qu'on discute de la sanction qui, elle, est très critiquable, évidemment. Mais on ne peut pas ne pas regarder cette sanction sans regarder les faits proprement dit. Alors on sait que par le passé, c'est aussi ça le problème. Par le passé, il y a eu beaucoup de sportifs de très haut niveau, parmi les meilleurs, qui ont été sanctionnés pour des prises contre leur plein gré, comme disait notre ami Richard Virenque. Et ils ont été contrôlés, ils ont été sanctionnés quand même. On sait qu'il y a eu, le dopage forcément et obligatoirement, voilà, on doit être contre et forcément les sportifs doivent être sanctionnés. Maintenant, il a été manifestement acté que c'était une prise à son insu,
non consentie,
sur un massage de son équipe. Alors il l'a dit. Il avait plutôt intérêt de le dire, mais il l'a dit, c'était son équipe, il en était donc responsable, et il devait en assumer les conséquences.
Ce qu'il a fait, puisqu'il a immédiatement cessé toute collaboration avec cette équipe.
Exactement.
Pour en embaucher une autre.
Alors ça, on sait qu'évidemment, si, on sait que c'est presque facile de tenir, exactement, de tenir cette ligne-là. Forcément, on montre au monde du tennis et au monde du sport que voilà, on a tiré les conséquences et on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, on pourrait discuter longtemps de ces contrôles sur des produits. D'ailleurs, alors moi je ne suis pas un spécialiste du dopage, hein, bien heureusement d'ailleurs, enfin, même si tous ceux qui sont des spécialistes ne se sont pas dopés dans leur carrière, bien évidemment. Mais on peut se poser d'un côté la question sur ce que ces produits apportent aux sportifs. Ça n'enlève en rien le fait que c'est un produit interdit qu'il a pris, même si c'était involontaire de sa part, bien évidemment. Mais voilà, donc c'est un problème qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Une fois qu'on a dit ça, voilà, il y a une sanction qui est prise et c'est cette sanction-là qui pose problème.
C'est exactement ça, voilà. c'est la sanction et le mode de négociation qui pose problème.
Un arrangement entre les parties. Alors un arrangement entre les parties, c'est pas nouveau. Maintenant, il y a une décision qui devait être prise plus tard. On savait que cette décision
par un autre organisme.
Voilà, au mois d'avril, pouvait effectivement contrecarrer la saison de Sinner, qui est numéro un mondial. On va quand même le rappeler, ça a son importance.
Alors c'est la question que je voulais poser, moi. Est-ce que vous pensez que le fait que Sinner soit numéro un mondial et donc figure de proue du tennis professionnel aujourd'hui avec Alcaraz, a joué un rôle dans cette décision, Clément Muller?
Moi, je trouve que ça va donner une image du tennis mondial qui peut soit partir du côté blanc, soit partir du côté noir. Quel crédit
aujourd'hui, tous les joueurs, à l'unanimité, ont réagi en étant absolument scandalisés et sans juger Jannik Sinner, qu'ils adorent tous, ou presque. Mais vraiment,
exactement, je pense qu'il faut être scandalisé de cette décision pour essayer de conserver de la propreté dans ce sport. Et moi, je vois ça comme de la culpabilité involontaire. Donc, même si on enlève le mot involontaire, il y a encore culpabilité. On a un niveau tellement qui nous dépasse. Faut pas oublier que les athlètes sont responsables des gens qu'ils embauchent. Vous l'avez dit au début de l'émission, il a aussitôt renvoyé son équipe de kiné pour en embaucher une nouvelle. Ça veut dire que l'équipe au préalable a été embauchée par ses soins. Donc il est fautif de l'équipe qu'il embauche et des briefings qu'il leur fait et des produits à utiliser, etc. On est à un tel niveau, on peut pas nous faire des histoires en nous disant ben non.
Oui, la liste de produits interdits, elle est connue de tous, hein.
Mais on en arrive quand même à un niveau où Sabalenka, par exemple, raconte qu'aujourd'hui, elle va au restaurant, elle s'en va aux toilettes, et elle ne reboit pas son eau dans le même verre qu'elle avait avant d'aller aux toilettes, par peur, effectivement, que quelqu'un y dépose un produit. On sait aujourd'hui, alors ça n'enlève en rien, évidemment, au dopage qui est avéré. Voilà, on peut toujours discuter, comme je disais, du dopage, de la quantité, de l'apport, etc., etc. C'est un sujet qui est bien plus vaste et qui est différent.
Et de l'acte volontaire ou pas.
Et de l'acte volontaire ou pas. Et ça, sauf à ce qu'un jour le kiné parle, on ne le saura jamais. Hein, c'est un peu compliqué. En tous les cas, c'est sûr que cette manière de le sanctionner, là, pour le coup, ne peut pas servir le tennis, ne peut pas servir le sport tout court. Et même s'il est apprécié, Sinner, au sein de ses collègues... ça posait déjà question, puisque c'est pas nouveau, ça fait déjà un an que cette histoire.
C'est un sujet qui effectivement a déjà été un petit peu, presque un peu opaque dès le début, puisque il a été donc contrôlé positif. L'affaire n'est sortie qu'au bout de deux mois. Au bout de deux mois, donc il y a cette négociation déjà. Avec le fait d'être blanchi par le tribunal indépendant de l'ITIA, et puis finalement c'est l'agence mondiale. Alors pour le coup, l'agence mondiale, c'est presque antidopage, c'est presque tiré deux balles dans le pied, parce que c'est elle qui fait appel. Donc là, on est plutôt sur une décision de fermeté. Et derrière,
on a quand même un peu de mal à y comprendre.
On a l'impression qu'elle se couche pour le coup.
C'est quand même un petit peu compliqué.
Et aujourd'hui, ça pose vraiment la légitimité de cette agence mondiale antidopage. En fait, tous les athlètes de tout sport là ont réagi ce week-end en disant, mais finalement, est-ce que le sport propre existe toujours, et quelle légitimité va désormais avoir cette agence pour faire des contrôles, les fameux contrôles longitudinaux qui ont lieu tout au long de l'année, et puis à la moindre sanction aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer?
Et le problème, c'est qu'aucune justification de cette décision prise plus tôt que prévu pour une durée qui permet effectivement à Sinéa de revenir pour les tournois majeurs, aucune justification ne peut être entendue. Il n'y a pas de raison, si ce n'est pour l'intérêt supérieur du tennis, pour l'intérêt de la saison. Mais qu'est-ce que l'intérêt de la saison par rapport justement à ce problème du dopage? Donc, c'est très difficile pour eux, et puis on a peu d'infos sur les raisons véritables.
On n'a pas d'infos du tout, et on a surtout, vous le disiez hors antenne, Eric Figuère, on a l'impression qu'il y a deux poids deux mesures. C'est-à-dire que Simona Halep a été, elle, joueuse de tennis et ancienne numéro 1 mondiale, elle aussi, a été contrôlée et sévèrement punie de plus de...
Enfin, là, deux c'est ans un de problème encore plus grave.
Deux ans de suspension au départ.
Se fait sanctionner très, très durement, voilà. Un homme qui arrive et qui... alors, ils sont tous les deux numéro 1 mondiaux au moment où ça arrive. Donc, c'est pas une question, là, pour le coup, d'exposition. Mais là, c'est encore plus incompréhensible. C'est très embêtant.
Et elle a pris deux ans de suspension, ramenée à un an. Mais voilà.
Ça a, entre parenthèses, quand même brisé sa carrière. Hein.
Absolument. Vient d'arrêter, d'ailleurs.
Voilà. Et c'est ce qui arrive dans ces cas-là. Je veux dire, il y a un dopage. En général, les athlètes ont du mal à s'en remettre, forcément. Là, on va voir ce que ça va. Voilà, on va voir ce qui va advenir. Il est apprécié, donc c'est quand même une grande chance pour lui. À voir encore si la décision ne va pas être cassée d'une manière ou d'une autre, il ne va pas y avoir une autre sanction.
Je ne sais pas si d'autres instances peuvent intervenir désormais. Est-ce que le tribunal, l'arbitral du sport qui devait se prononcer le 17 avril,
que c'est pas terminé.
A encore son mot à dire? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on voit que le syndicat des joueurs, le PTPA, s'est insurgé contre cette décision en disant qu'elle manquait simplement de clarté et de cohérence.
Une grève des joueurs. Une grève des joueurs, des joueuses.
Non, parce qu'une grève des joueurs, ça voudrait dire soutenir Sinner quelque part, et je pense que c'est pas forcément la meilleure
méthode.
On peut
le voir des deux côtés, mais en tous les cas, il va falloir régler ce problème si le tennis veut continuer à avoir malgré tout cette excellente image et qu'on puisse continuer à regarder les gros tournois avec autant de plaisir.
Puisqu'on parle d'excellente image, il y en a un joueur qui jouit de cette excellente image, c'est Stan Wawrinka, qui a indiqué sur ses réseaux sociaux qu'il ne croyait plus du tout en un sport propre.
J'ai vu ça.
Voilà. Donc effectivement, cette décision pose question.
Ceci dit, c'est une lapalissade, hein, le sport depuis toujours. Les cyclistes qui roulaient au début du 20e siècle étaient déjà dopés, alors avec d'autres produits. À l'époque, c'était tout à fait différent.
Et d'autres méthodes.
Mais les sports qui soient sont extrêmement durs, et je ne cautionne évidemment pas en disant ça le dopage, forcément, c'est une évidence. Mais les sports extrêmement difficiles qui demandent des heures et des heures, des jours et des semaines d'efforts, ben forcément génèrent à un moment donné cette envie pour certains de prendre des produits. Voilà. Ça a toujours existé dans certains sports plus que d'autres. Voilà. Alors là aussi, je vais jeter un pavé dans la mare. Ou bien est-ce qu'on autorise tout, ou bien est-ce qu'on interdit tout? Voilà. Si on interdit tout, ce qui est le cas aujourd'hui pour la plupart évidemment des produits problématiques, eh ben on sanctionne. On sanctionne une bonne fois pour toutes, au même niveau pour tout le monde. Et forcément, si on le fait pas, eh ben voilà.
On arrive à cette polémique du jour. Merci messieurs pour ce débat. On va terminer comme d'habitude par vos coups de cœur. Clément Muller, on va commencer par vous.
Ah, j'ai longtemps hésité. J'ai longtemps hésité entre deux personnes qui ont fini le Vendée Globe, le doyen ou la Benjamine. Donc soit Jean-Luc Cam, soit la Benjamine Violette d'Orange. Alors pour deux raisons complètement différentes. Jean-Luc Cam, parce que c'est le premier marin qui a bouclé le Vendée Globe sans démarrer son moteur pour recharger sa batterie, c'est-à-dire que pour faire tourner son bateau qui a fait le tour du monde, il a utilisé uniquement l'énergie solaire et l'énergie hydrogénératrice, donc de la vitesse de son bateau. Et Violette, parce que 23 ans et finisseuse d'un tour du monde en solitaire, c'est quand même c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et donc voilà, c'est un double coup de cœur. Voilà pour moi.
C'est dommage qu'on n'imagine pas assez ce qu'il traverse pendant deux à trois mois de traversée.
Et pourtant, avec les réseaux aujourd'hui, Internet à bord, on arrive à avoir pas mal d'idées de ce qui se passe, mais c'est vrai que...
Ça reste malgré tout un peu abstrait,
malgré tout,
ça minimise malheureusement leurs exploits.
Éric Figuère, on va passer à vous pour terminer cette émission avec votre coup de cœur ou vos coups de cœur.
Alors, j'ai eu la chance d'en passer déjà un, donc je suis déjà bien heureux. Et c'est un coup de cœur que je pourrais placer à chacune de mes venues, c'est pour les bénévoles. Voilà, les bénévoles, alors je vais parler de la Calédonie puisque c'est celle que je connais mieux, et la Ligue de Golf aussi, mais pas seulement. Tous les bénévoles qui font que le sport aujourd'hui peut se dérouler, que les compétitions peuvent se dérouler, et les bénévoles sont... à 99% des gens totalement désintéressés qui ne donnent que du temps pour les autres, pour l'intérêt de leur discipline, pour l'intérêt de ceux qui les entourent. Et ça, c'est assez fabuleux. Je pense qu'on n'en parlera jamais assez, vraiment jamais assez. Et vous tous qui écoutez, vous tous ici présents, vous le savez, puisque vous avez fait fonctionner des disciplines grâce aux bénévoles. Donc vraiment, je pourrais en parler pendant des heures, même si c'est pour répéter toujours la même chose. Mais les bénévoles sont juste des gens extraordinaires. Et moi, je les remercie dans les clubs, dans les ligues, dans les fédérations, voilà, de faire tout ce qu'ils font. Et c'est difficile. Les bénévoles, aujourd'hui, ne reçoivent que très, très peu d'encouragement, de félicitations. Tout ce qu'ils prennent, c'est des mots méchants, des insultes et parfois même des coups. Donc, bravo à eux.
Donc, voilà, et je m'arrête. On pourrait dédier cette émission toutes les semaines aux bénévoles, effectivement. Messieurs, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle semaine formidable.
Merci.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine formidable sur Radio Rythme Bleu.